Femme Sahraoui, femme du désert, c'est le livre de Christiane Perregaux dont nous lisons quelques extraits aujourd'hui dans Remue Ménage, Ondes Femmes, Radio Zone 93.8. Depuis fin 1975, des milliers de femmes sahraouis se sont arrêtées sur la Hamada caillouteuse et brûlante de Tindouf, dans le désert algérien. D'autres les ont rejointes après avoir fui les régions de leur pays occupées par le Maroc. C'est là qu'elles sont réfugiées, toutes dans le plus grand dénuement, et organisent et gèrent la vie quotidienne d'environ 165 000 réfugiés, alors que la plupart des hommes sont à la guerre. Pour elles, l'indépendance s'acquiert aussi par la lutte contre l'analphabétisme, par la formation professionnelle, par une organisation sociale qui veut donner les mêmes droits aux femmes et aux hommes. Elles sont les héritières des femmes nomades, elles ont eu traditionnellement un rôle éminent dans leur société et elles mettent bien sûr aujourd'hui à profit le temps provisoire de l'exil pour se donner les moyens de tenir la même place dans leur pays d'indépendance. Alors aujourd'hui dans Remue Ménage, eh bien je prête ma voix à la plume de Christiane Perregaux qui vous parle de ces femmes sahraouis. Elles sont sahraouis, elles sont femmes. Ensemble, nous avons passé des journées, des nuits, sous les tentes des campements de réfugiés sahraouis. Là-bas, tout au fond du désert algérien, autour des puits de la Badia, les zones libérées de la République arabe sahraouie démocratique. Ensemble, nous avons pensé à la façon dont nous pourrions transmettre à d'autres femmes, à d'autres hommes, une parcelle de leur vie, un éclat de leur lutte, une étincelle de leurs espoirs. Comment nous pourrions dire leur engagement quotidien pour l'indépendance de leur pays, pour l'éducation des enfants et des adultes, pour la santé, pour une plus grande autosuffisance, malgré le grand dénuement de la situation actuelle ? Comment nous pourrions faire comprendre leur éternité de tradition nomade, toujours liée à leur présent ? Comment nous pourrions passer le témoin de la solidarité? Nous avons pris la décision d'écrire un livre. Elles en seraient l'encre, la vie. Je serai leur plume. J'essaierai de raconter leur histoire avec un grand H et leurs histoires. Je publierai les billets, les traces de nos rencontres, de nos discussions, quelquefois inachevées. Exercice périlleux que de dire sans trahir, avec mes mots de femme sédentaire, nantie, européenne, qui n'a connu que la paix, des années de guerre, d'exil. Des années d'espérance, des soifs inextinguibles de liberté pour s'organiser, survivre, puis vivre dans une des régions les plus cruelles du monde. Christiane Perregaux, c'est son introduction. Mariam, je vais essayer de tenir la promesse que je t'ai faite le 28 août dernier. Nous discutions sous ta tente hospitalière sur la Hamada de Tindouf, caillouteuse brûlante inhumaine. Avec tes sœurs, avec une partie de ton peuple, vous vous êtes arrêtés sur cette terre il y a plus de 10 ans déjà. Depuis 1975, vous lui avez donné la vie, l'espérance, un frisson de liberté qui saisit dès l'arrivée dans vos campements. Camp de réfugiés sahraouis relégués au bout de l'univers habité. Réfugiés dignes, fiers, défiant le temps, l'injustice. Privés de tout sauf de l'espérance tenace, séculaire, de ne jamais accepter la domination, l'occupation. Je revois tes gestes calmes, précis, déterminés. Accroupis sur le tapis rose vert, bleu vif et blanc sable, tissés dans vos ateliers, tes bras burinés, sertis d'un mince filet d'argent, tu nous prépares le thé. Devant toi, le plateau de métal à trois pieds, les petits verres cannelés, la boîte précieuse remplie du fameux Special Green Powder, le thé vert du monde. Le meilleur thé vert du monde. Je me suis toujours demandé comment, depuis la Chine lointaine, il avait pris le chemin des caravanes. À ton côté, le hanoun, ou plutôt maintenant la bouteille de gaz emprisonnée dans un carcan de fer blanc pour prévenir les incendies. Tes mains dansent du réchaud au plateau. Tu remplis d'eau et de verre de feuilles vertes de Chine fitement roulotées, la petite théière rouge émaillée. Premier lavage du thé. Après avoir secoué circulairement la théière, tu jettes l'eau dans la boîte de fer blanc. Une nouvelle fois, tu recouvres les feuilles de l'eau des puits ou des citernes. Sur le réchaud, rapidement, le mélange bout. Avec un chiffon délavé, tu tiens l'anse brûlante, tu soulèves le couvercle, sucres le breuvage et tu verses dans un verre. Le thé chante, une fois encore, déborde à peine sur la flamme et dégage cette odeur caramélisée annonçant que le thé va être servi. Il coule dans les verres. Une fois, deux fois, dix fois, tu transvases le liquide moiré de l'un à l'autre et artiste, tu fais naître au fond des verres une mousse nuageuse délectable. Puis, saisissant l'anse entre le pouce et l'index, tu soulèves la théière, la main à hauteur de tes yeux lointains et tu laisses tomber en ruban odiférant la boisson impatiemment attendue. À petits coups de lèvres, nous savourons le seul élixir qui, ici, peut nous désaltérer. Malgré les 50 degrés, tu recommences une deuxième, une troisième fois la préparation du thé, inlassablement. Car le boire par trois est plus qu'une coutume, c'est un rite, une liturgie. La cérémonie du thé rythme toute ta vie et celle des réfugiés sahraouis. Les journées des combattants qui arrachent sur le front votre liberté. Les transhumances des nomades qui peuplent de nouveau les zones libérées par la République arabe sahraoui démocratique. Les discussions des représentants du Front Polisario à l'étranger. Les souffrances de ta famille, de 1000 familles sahraouies restées dans ton pays toujours occupées par l'armée et l'administration marocaine. Te rendre vivante, Mariam, te faire aimer. Décrire ta force, ton cœur de mère qui pleure son fils tombé à la guerre et qui attend son mari en permission. Tes mains d'artisane tissant les tapis qui recouvrent le sable des tentes. Ta ténacité à suivre les cours d'alphabétisation. Ton engagement dans le groupe de musique de la Daïra de Cheira. Cette commune où tu vis depuis ton arrivée, un malheureux jour de mars 1976. Malgré 13 ans d'exil, ta foi toujours sans faille dans le retour au pays. Foi de milliers d'autres femmes, de vous toutes que j'ai rencontrées au cours de mes séjours dans votre Havre provisoire. Le centre d'accueil de Hafiz Boujema est planté en éclaireur devant les 150 km de désert où sont dispersées les tentes des réfugiés sahraouis. Ces longues maisons basses de terre peinte, roses vives cernées de blanc, disposées en carré, attendent tous les amis, visiteurs, délégations, invités du Front Polisario, amenés jusque-là depuis l'aéroport de Tindouf. Chambre de repos, salle à manger, salle de réception, tout est préparé pour un accueil chaleureux. Dans la cour, un large patio recouvert de longues palmes séchées favorise aussi bien la rencontre des étrangers entre eux que les premières discussions avec les Sahraouis chargés de l'intendance. Tout au long du jour, le léger gravier de la cour crisse sous les sandales des porteurs de thé qui passent d'un hôte à l'autre. Derrière Hafiz Boujema, les quatre wilayas, unités administratives régionales d'à peu près 40 000 Sahraouis, chacune s'étire sur la Hamada, près de Tindouf. Elles portent les noms fabuleux des villes du pays, tragiquement abandonnées. El Ayayoun, la capitale sur le bord de mer près du Cap Bojador, Smara, généreusement développée par le puissant calife du désert, Malen Aynin, à la fin du siècle dernier, il voulait en faire le centre religieux, politique et commercial de la région où viendraient étudier les jeunes nomades. Et puis Dakhla, aussi la cité aimée du Rio de Oro, sur la pointe de la presqu'île qui se jette dans l'Atlantique à 300 km de Nouadhibou. Et aussi Aoussard, la dernière étape avant de s'enfoncer dans le Tiris, le désert des déserts qui fait frontière avec la Mauritanie. Avec Khadijatou, une fidèle compagne retrouvée dans les campements après l'avoir connue à Genève pendant une session de la Commission des droits de l'homme où elle venait demander justice pour les siens disparus, avec Hatta, mon ami traducteur, nous avons passé la nuit à Hafiz Boujema. Nouvelle nuit en plein air, scintillante de nuées d'étoiles vagabondes. Au lever du jour, dans l'aube encore tendrement rosée, nous avons pris le chemin de l'école du 27 février. 27 février, le jour de l'indépendance de la République arabe sahraoui démocratique. Nous avons rendez-vous, c'est un rendez-vous important. La distance n'est pas très longue. De loin déjà, les murs vifs des ateliers de tissage émergent en demi-ton, à côté du village des tentes prêtes à accueillir les prochaines élèves. Toutes des femmes, de tous les âges. Nous passons sous le porche d'entrée. Un graffiti « Libérer Mandela » rappelle la solidarité sahraoui avec d'autres peuples opprimés. Notre Land Rover est à peine arrêté qu'une ribambelle de fillettes et de garçons curieux nous escorte jusque sous la tente de Souelma, une des responsables de l'école. Nous avons rendez-vous chez elle avec Mema et Khadijatou. L'une est directrice d'école primaire, l'autre administratrice de l'école du 27 février. Elles sont tout à fait intégrées dans la société sahraoui des camps de réfugiés. Pourtant, en 1984 encore, elles vivaient dans les régions de leur pays occupées par le Maroc, à El Ayaoun, au bord de l'Atlantique. Toutes deux victimes de la répression de l'occupant, elles retiennent aujourd'hui avec pudeur les mots de leur souffrance. Surtout, ne pas apparaître comme deux femmes particulières. Mais témoigner, joindre à leur histoire les vies amères d'autres compagnes et d'autres compagnons, se mêler aux souffrances communes à toutes leurs sœurs. Attester que chaque famille sahraoui cherche un disparu, attend sans fin les nouvelles d'une mère emprisonnée, d'un fils torturé, que les années, les jours, les lieux, les prisons diffèrent, mais le scénario est toujours le même, toujours la peur, l'angoisse, la terreur. Mema et Khadijatou ont réussi à sortir du cercle infernal de la répression. D'autres y sont restés. Comment les sauver ? En 1975, lorsque la marche verte de triste mémoire a déferlé sur le Sahara colonisé par l'Espagne, Mema avait 17 ans. Depuis 2 ans déjà, elle avait rejoint le Front Polisario qui laissait, lassée par les réponses belliqueuses de l'Espagne aux exigences sahraouies d'autonomie puis d'indépendance, organiser la résistance et la lutte armée contre le colonisateur. Mema portait l'espoir de la décolonisation prochaine. Enfin libre, on y était presque. L'Espagne abdiquait devant la résistance de la population sahraoui. L'ONU, les États voisins avaient mis tout au point pour cette heure d'indépendance. Coup de théâtre. Tragédie. Mauritanie, Maroc et Espagne se liguent pour le mal du peuple sahraoui. Accord madrilène secret, le 14 novembre 1975, abandon du Sahara occidental au Maroc et à la Mauritanie. Peu de temps avant, la mort du Caudillo. L'Espagne rompt tous ses engagements de puissance colonisatrice, sans vergogne. La France est bien sûr au courant, rien de ce qui se passe dans la région ne lui est étranger. Prix à payer pour les nouveaux occupants. L'Espagne conservera d'importantes royalties dans les fameux gisements de phosphate à ciel ouvert de Boucraa qui sont exploités depuis quelques années. Désolation, révolte dans la population du Sahara occidental, fuite devant l'entrée militaire marocaine, meurtrière. Mema n'a pas eu le temps de se sauver. La ville d'El Ayaoun est bouclée. Les communications rompues. De plus, elle est l'aînée de 8 frères et sœurs. Qui en prendrait soin si elle suivait la voie de son cœur ? D'ailleurs, le Front Polisario préfère continuer d'avoir de bons relais à l'intérieur. Et elle sera l'un d'eux. Elle nous dit. Tout à coup, nous nous sommes trouvés sur une île. Tout le territoire sahraoui était une gigantesque enclave bouclée à double tour. Tous les déplacements étaient suspects à l'intérieur et à l'extérieur des localités. Dans cette lourde atmosphère, Mema est arrêtée avec 26 autres personnes. L'Espagne est encore présente pour quelques semaines, mais ce sont déjà les Marocains qui emprisonnent et qui torturent, qui font disparaître, qui veulent savoir à tout prix. Ils nous disent « Vous êtes des traîtres. Quel lien avez-vous avec le Front Polisario ? Enfin, qu'espérez-vous ? Nous sommes là pour longtemps ? Dès à présent, vous êtes marocains. » Alors quoi avouer ? Même sous la torture, nous n'avons rien à révéler. Pourtant, oui, une chose, notre identité sahraoui. Au bout d'un mois, les femmes sont libérées. Mema retrouve sa famille, pauvre, sans moyens de subsistance. Les hommes sont restés en prison, plusieurs sont morts. Des maladies, des mauvais traitements ou des tortures. La prison d'El Ayaoun n'a pas réussi à intimider Mema. L'incarcération renforçait notre solidarité, dit-elle. Bien sûr que la prison effraie, surtout lorsque les gardiens agissent comme des brutes. On se sent à la merci totale de l'ennemi, plus d'issue. Mais peu à peu, entre prisonniers et prisonnières, on se dit qu'on s'en sortira. Et il faut en ressortir fort, ne pas se laisser détruire, ni physiquement, ni moralement. Nous chantions, reprenant nos airs traditionnels, composant des paroles de résistance. Nous discutions d'actions futures. Quelques mois après cette douloureuse expérience carcérale, Mema est à nouveau interpellée. Elle avait pourtant pris des précautions. Elle n'avait plus participé aux manifestations, se contentant de regarder des défilés courageux de ses amis et de ses amies, surtout portant le drapeau noir, blanc, rouge et vert à l'étoile et au croissant, déployant des banderoles attestant de la résistance à l'occupant et l'appartenance au Front Polisario. Les youyous stridents des manifestantes couvraient à peine les palpitations de Mema. Elle voulait se faire oublier pendant quelque temps. Elle avait choisi la prudence. Elle restait spectatrice. Pourquoi alors est-elle emmenée à nouveau dans cette vieille garnison qui sert de prison ? Elle n'en sait rien. Ses compagnes et compagnons de cellule non plus. Parmi eux, 2 jeunes enfants, des vieillards, des femmes enceintes. Ils sont cette fois-ci des centaines de tous âges à être arrêtés. À El Ayaoun, mais aussi à Smara, à Dakhla, la police marocaine tente de déchirer tout lien entre l'organisation intérieure du Front Polisario et l'extérieur. Sans succès, renforcement des mesures d'intimidation, l'occupant n'admet pas d'être confronté à une résistance organisée, structurée, à laquelle adhère toute la population sahraoui, à quelques exceptions près. On peut venir à bout, écraser des hostilités individuelles. Mais par où essayer d'atteindre l'incendie général de la résistance collective? L'occupant reprend la vieille recette tant de fois utilisée dans la noire histoire des peuples occupés. Torture, emprisonnement, disparition. Emema et les autres prisonniers et prisonnières exigent d'être jugés afin de connaître les crimes dont ils sont coupables. Il aurait répondu qu'ils ne sont que des vauriens, des va-nu-pieds, des droits communs sans importance dont le monde peut se passer. Nous voulions passer devant un tribunal, dit Emema. Nous avions l'illusion de pouvoir de cette façon prouver notre innocence et au moins faire connaître notre situation. Mais pas de jugement pour Emema et ses amis, pas même une parodie de justice. Torture. 25 personnes meurent à côté d'elle dans les 5 premiers mois. Elle croupit 2 ans dans les geôles. Ses tortionnaires lui arrachent des cris, la santé. Et pourtant, le Maroc n'a jamais admis avoir réduit au silence des prisonniers politiques sahraouis. Il affirme ne détenir que des prisonniers de droit commun. Et tragiquement, depuis 1976, personne n'a pu suivre au Sahara occidental occupé et au Maroc la trace de tous les prisonniers dont seuls les murs de leurs mauvaises cellules font écho à leur appel. Personne n'a pu avoir de nouvelles des disparus. Le monde, ignorant ces violations chroniques des droits humains, reste silencieux, obstinément silencieux. Trop pudique, trop émotionné aussi par les souvenirs qui surgissent, Emema essaye de les chasser en pressant ses mains sur ses yeux. Elle reste de très longs moments muette. Elle revoit cet homme qui criait son innocence alors qu'on le torturait. Et tout d'un coup, dans la prison, elle a entendu le silence, assourdissant. Il était entrecoupé d'imperceptibles râlements, un tissu profondément coincé dans la bouche. Ahmed expirait, étouffé. Aujourd'hui encore, Emema pleure. Lawali de Smara, la langue arabe, tout comme le français, est encore avare en termes féminins pour nommer certaines professions. Wali n'a pas de féminin en arabe, pas plus que sa traduction française, gouverneur ou préfet. On nomme bien dans le Petit Robert la définition de gouvernante ou de préfète. En muant au féminin ces mots, perdent leur sens et ne nomment plus le ou la fonctionnaire qui représente le pouvoir central et dont la charge est d'administrer une région, mais plutôt la femme du gouverneur ou la femme du préfet. Senia Ahmed est pourtant Wali de Smara. Veuve d'un combattant, seule, avec 3 enfants, elle a la lourde charge de représenter l'État sahraoui dans une des 4 wilayas. Elle administre la région qui porte le nom de la ville sainte du Sahara occidental, Smara. Cette cité, toujours auréolée d'un certain mystère, a vu, à la fin du siècle dernier, la construction grandiose, bien qu'éphémère, du seul centre sédentaire d'études avancées et de la seule bibliothèque du territoire. Réalisée par le savant Maël Aïnin, sage religieux et résistant à toute pénétration étrangère sur son territoire, la ville a été brûlée avant son achèvement par un raid punitif de l'armée française. C'était il y a longtemps, c'était en 1913. Cette année-là, presque toute la mémoire écrite du peuple sahraoui a disparu. Les uniques manuscrits, religieux, philosophiques, astronomiques, géographiques, les livres saints, protégés de couvertures de cuir enluminées, qui avaient voyagé des siècles durant, d'un bout à l'autre du Sahara, sous les selles des chameaux, ont disparu dans les flammes de la vengeance. Les seules photos de Smara montrent les restes de colonnes mauresques, preuve s'il en faut du massacre humain et culturel perpétré par la colonisation. Senia nous dit « Dès que j'ai été nommé gouverneur de Smara, les sages de la wilaya sont venus me trouver. Ils étaient fiers de faire partie de cette wilaya qui, la première, avait une femme à sa tête. Ils m'ont assuré qu'ils étaient prêts à me soutenir dans mes activités, à me conseiller si je le désirais. D'ailleurs, m'ont-ils dit, un diction traditionnel affirme depuis des siècles qu'une femme peut accomplir ce qu'un homme fait. Si le lion tue, la lionne tue aussi. » Le dernier soir d'août, Senia nous a rejointes dans le patio du centre d'accueil de Smara. Le ciel bordé d'étoiles renvoie la blancheur de sa mélafa bordée d'une large plate-bande de fleurs rouges qui souligne la matité de son visage. Jamais je n'ai lu la gaieté dans son regard, seulement la douceur ferme, la sérénité de celle qui sait qu'elle va gagner malgré les obstacles du chemin. J'aime le sourire tamisé avec lequel, en Hassania, elle parle de son travail, de ses sœurs. Le Hassania, c'est donc la langue du peuple sahraoui. Nous terminons justement notre deuxième soirée d'entretien sur le rôle de la femme sahraoui. Sa présence ou son absence dans les structures de la République arabe sahraoui démocratique. Les propos de Senia nous entraînent dans la réflexion, le sérieux d'une situation où rien n'est définitivement acquis. Je sens sa force devant les difficultés de chaque jour. Il n'y a aujourd'hui ni temps ni lieu pour laisser ici filtrer des moments d'éphémère fragilité. Elle dit ainsi « Vous vous étonnez que nous n'ayons pas plus de femmes parmi nos autorités, parmi nos représentants à l'étranger. Nous sommes trois à faire partie du bureau politique du Front Polisario. D'autres membres de l'Union nationale de la femme sahraoui partent en délégation à l'étranger pour rencontrer d'autres femmes, participer à des congrès, des conférences. Pourquoi y a-t-il toujours et encore alors une minorité féminine dans plusieurs de nos institutions ? L'explication est simple. Pendant presque un siècle d'occupation, la colonisation espagnole a donné très peu de possibilités d'instruction aux jeunes sahraouis. Donc encore moins aux jeunes filles sahraouis. Certaines parmi nous ont suivi l'école coranique, mais la colonisation a déstabilisé nos traditions, entre autres en sédentarisant une partie de la population. Les femmes sahraouies se sont vues transformées en consommatrices de biens exportés de la métropole, alors que jusque-là, elles avaient été productrices et participantes de la quasi-autosuffisance de leur société. Les Espagnols étaient avant tout machistes. Ce n'est un secret pour personne, bien sûr, et ce n'est donc pas eux qui allaient favoriser l'émancipation des femmes sahraouies. Au contraire, bien sûr, dans les villes, elles se sont trouvées sédentaires, mais alors prisonnières d'un rôle qu'elles ne connaissaient pas. En face de cette situation inconnue qui désagrégeait les traditions nomades, les hommes sahraouis ont réagi par la peur. Angoisse de voir leurs femmes, leurs filles perdues parmi des inconnus, plus des occupants. Inquiétude de les savoir entourés d'hommes aux habitudes et à la religion différentes. Ils voulaient en quelque sorte les protéger. Aujourd'hui, les femmes sahraouis doivent rattraper un retard certain. Senia est membre du bureau exécutif de l'Union nationale des femmes sahraouis. Elle assume la tâche particulièrement importante de responsable de la formation professionnelle. Un point prioritaire et indispensable pour l'activité présente et future de la femme sahraoui. Nous rejetons absolument le rôle de la femme à Libye, poursuit Senia. En effet, nous aurions pu décider de nommer des femmes à certaines fonctions, même si elles n'avaient pas encore la formation nécessaire pour les remplir. Le monde extérieur a été heureusement surpris par cette promotion, surtout dans le contexte arabe et islamique actuel. Peut-être aurions-nous été davantage soutenus par certains mouvements féministes ? Pourtant, ce piège, nous l'avons évité, volontairement. Ici, les gens sont nommés pour leurs compétences. C'est le seul critère dont nous tenions compte. L'enjeu est trop important, la lutte trop exigeante pour que nous jouions à faire semblant. Mais vous verrez, bientôt, nous allons avoir des jeunes femmes et des jeunes gens de formation identique. Alors, y aura-t-il préférence pour l'homme ? Je ne crois pas. D'ailleurs, il y a du travail pour tous. Le plus difficile est de confier à chacun la tâche qui lui convient et que chaque homme et chaque femme soient à l'aise dans son travail à quelque niveau qu'il se trouve. Dans la Wilaya Tsmara, il y a 6 daïras, environ 40 000 personnes, dont une majorité d'enfants, de femmes et de vieillards. Puisque la plupart des hommes sont à la guerre, lancent régulièrement des attaques contre le mur défensif déroulé à la frontière marocaine jusqu'à l'Atlantique par les forces armées royales marocaines. Et Sénia a la responsabilité de gérer toutes les activités de la Wilaya qui dépendent de l'État. Dans des domaines aussi vitaux que ceux de l'éducation, de l'alimentation, de l'approvisionnement en eau, de la santé. Mais elle doit aussi assurer le bon fonctionnement des institutions de la République. Comment s'est bâtie la politique sociale de l'État sahraoui ? Sur un modèle extérieur ou au contact des réalités locales ? Les réflexions de Sénia illustrent ce pragmatisme que j'avais déjà relevé dans le développement du système scolaire. L'important est d'être le plus près possible de notre réalité. Nous avons bien sûr des idées générales sur les relations humaines, sur l'aide aux malades, aux déshérités, sur la justice. Nos traditions nomades, codifiées depuis longtemps, et notre religion islamique nous donnent un cadre large pour les pratiques sociales. De plus, nos aspirations sont claires. Nous désirons créer une société égalitaire, capable de faire face aux problèmes actuels et futurs. Aujourd'hui, la réalité nous oblige à aménager des règles particulières à l'intérieur de ce cadre. Au début, par exemple, nous avions tant de choses à construire, à organiser, que celui ou celle qui s'arrêtait de travailler, qui faiblissait, était pris pour un paresseux ou une fainéante. Si bien que même les femmes arrivées au terme de leur grossesse poursuivaient leur labeur, parfois au risque de perdre leur bébé. Lors de nos premiers congrès populaires de base, ils se tiennent chaque année dans les daïras, nous avons empoigné cette préoccupation. Approuvant les interventions qui préconisaient un allègement du travail pour les femmes enceintes, la communauté a décidé qu'au 7e mois de leur grossesse, les futures mères arrêteraient de travailler et qu'après la naissance, elles jouiraient de 6 mois de congé. Cette période passée, la mère devait pouvoir retrouver son activité. Mais que faire de son bébé ? Il était alors question de le laisser sous la tente ou d'arrêter son allaitement. Hors de question, bien sûr, de faire cela, source de résistance. L'allaitement et d'immunité contre plusieurs maladies infantiles. Alors, nous avons examiné ces questions, nous avons cherché et trouvé une réponse en harmonie avec nos habitudes de garder nos enfants près de nous, et des crèches ont vu le jour. Aujourd'hui, toutes les institutions de la République, dans les écoles, les dispensaires, les hôpitaux, les ateliers et les administrations, on trouve des crèches. Les femmes peuvent vaquer à leurs occupations sans lesquelles rien ne fonctionne dans les campements et en même temps, elles peuvent se rendre auprès de leurs enfants, continuer à les nourrir. Ce fourmillement d'activité féminine donne toute son actualité à un de nos proverbes ancestrales : un peuple sans femmes est comme un jardin désert. Vous êtes toujours dans Remue Ménage, Radio Zone 93.8. Do you know?